Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une agréable journée. Nous sommes le mardi 14 septembre 2021. Il fait un peu gris dans le Beaujolais. On a quelques averses d'attendues au nord, du côté de Belleville cet après-midi, d'éventuels orages dans la soirée et au cours de la nuit. Mais visiblement, le gros des précipitations risque d'attendre demain. En attendant, les températures restent élevées, autour de 27 degrés maximum. Cet après-midi dans le Beaujolais. S'il ne fait pas très beau aujourd'hui, notre rayon de soleil à nous d'Ensemble sur Calade, ce sera de retrouver nos chroniqueurs. Nous avons rendez-vous avec le coach et Bertrand Lamure de la librairie des Marais. Mais d'abord, du soleil, on va peut-être en avoir aussi avec notre invité et son accent chantant, c'est Esteban Moreno qui est avec nous en studio. Il est chorégraphe, danseur, professeur et producteur argentin. Aujourd'hui, il est installé à Lyon après avoir parcouru le monde grâce à la danse. Il a ouvert le Tango Social Club à Villefranche et c'est bien de tango qu'il va être question aujourd'hui dans notre émission. On va donc parler du parcours de notre invité et de cette danse, de la tradition qu'il y a autour et puis de son évolution aussi. Et puis on va parler des cours qui vont être donnés à Villefranche, c'est tous les jeudis. Ça commence dès cette semaine avec un atelier découverte à partir de 19h à la salle du Sport Center. Avant d'en dire plus, on commence bien sûr l'émission en musique avec la voix très reconnaissable de Tom Waits sur le titre Till There's Core. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Well, you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangled to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. And send me off to bed forevermore. Sure, they play my theme song. I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. My secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Just wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. Let me fall out a window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore?
Tango Till There's Core, c'était Tom Waits qu'on vient d'entendre sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, avec nous en studio aujourd'hui, Esteban Moreno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe et vous êtes professeur de tango.
De tango argentin.
Et vous avez ouvert l'année dernière, il me semble.
Ça fait un petit peu plus. C'est une expérience qui a 3 ans déjà, mais bon, avec une jolie et belle interruption.
D'un an, bien sûr. Donc c'est le Tango Social Club à Villefranche. Alors avant ça, vous avez fait beaucoup de choses. On va peut-être parler un petit peu de votre parcours.
J'ai commencé les tangos il y a plus de 30 ans en Argentine, à Buenos Aires. Et au début comme danseur populaire, en fait, comme danseur amateur qui voulait découvrir cette danse qui appartient bien sûr à notre culture populaire. Même si quand j'ai démarré il n'y avait pas beaucoup de tango, et j'ai vu que c'était un langage extraordinaire et qui était très proche de beaucoup de choses que j'aimais. Je me suis mis à étudier profondément cette danse. Après, assez tôt, des parcours se sont ouverts. Donc la possibilité de travailler sur scène et de faire de cet art un art de spectacle.
De devenir professionnel, en fait.
De devenir professionnel, mais sur scène.
Ouais.
Mais aussi de les partager comme prof, et tôt, peut-être trop tôt. Mais et après ça, de voyager. Et,
ouais.
Et j'ai commencé à étudier aussi danse contemporaine et des autres formes. Théâtre aussi.
Vous auriez pu peut-être être juste danseur professionnel. Vous avez fait le choix d'enseigner et de transmettre ce que vous avez appris. Il n'y avait pas juste le plaisir de danser, mais aussi de...
Il y a un tango, peut-être c'est assez normal, en fait. Quand on devient danseur populaire, on a assez tôt peut-être envie de partager ça avec les autres. Et comme c'est une danse populaire qui a la portée, on va dire, de tout le monde, en général, ça s'est fait assez facilement d'initier des autres personnes à danser. Mais bon, moi, le fait aussi de voyager et d'enseigner à l'étranger m'a permis de voir que ce qui était évident pour moi, ce n'était pas évident ailleurs. Et il a fallu développer toute une méthode d'enseignement qui fasse que les gens puissent comprendre, en fait.
Ouais, c'est autre chose d'apprendre aux autres que d'apprendre
soi. Oui, aussi, là-bas il y a un commun dénominateur. On dit quelque chose, et c'est compris, la position du corps, ou certaines choses des pieds, etc., sont comme naturelles.
Ouais.
Et ici, il a fallu expliquer beaucoup de choses.
D'accord. En parallèle, vous avez été, donc vous avez fait beaucoup de scènes, vous avez été chorégraphe, vous avez monté des spectacles aussi.
J'ai travaillé comme invité dans des spectacles, un peu de partout. J'ai travaillé aux États-Unis, en Russie, pas mal en Europe, aux Pays-Bas. Et donc là, comme invité, sur différents formats, music hall, opéra, ou des choses comme ça. Après, effectivement, j'ai créé ma compagnie avec ma partenaire, Claudia Codega. Nous avons créé notre compagnie et on a produit et dirigé et monté des spectacles, effectivement, qui allaient plus vers la danse ou plus vers les théâtres ou purement tango.
Ouais.
Et là, on avait comme la double casquette d'être danseur et directeur ou chorégraphe.
Et j'ai vu, vous avez fait un spectacle qui mélange tango et danse contemporaine.
Les derniers, oui, c'était un échange avec une compagnie de danse contemporaine des États-Unis qui était basée à New York. Et effectivement, on a mélangé. C'était pas la première fois parce qu'on avait fait un autre spectacle qui s'appelle Nuit Blanche. Les derniers s'appellent Sin Salida, dans lesquels, dans les deux cas, on a collaboré avec des danseurs contemporains pour la production finale.
Et du coup, ça allait à l'opposé d'un cliché que j'avais sur le tango, d'une idée reçue que je m'étais mise, c'est que c'est une danse traditionnelle avec des codes qu'il faut absolument respecter. On triche pas avec le tango, non, on peut se permettre de...
On triche tout ce qu'on fait avec le tango. la question, c'est que les mots traditionnels ont un poids ou une puissance ici différente de ce qui est chez nous. Ici, tu dis traditionnel, et malgré le fait que les gens sont en train de changer, tu t'approches un peu d'idée de folklorique. Et le tango, c'est une danse urbaine d'improvisation qui peut être dansée par n'importe qui, à n'importe quel âge, on va dire, qui nécessite un peu de maturité, oui, parce que comme il est question d'échanges entre deux personnes qui ont des univers et qui trouvent à travers la danse et la musique une façon de communiquer, et en tant que couple, mais avec des autres couples autour, donc c'est social. Et c'est à la portée de tout le monde et c'est très vivant, au point que c'est une danse qui est vivante non seulement à Buenos Aires mais de partout. Il y a plusieurs capitale du tango maintenant dans le monde.
Quand j'ai dit que vous étiez danseur de tango, vous avez dit tango argentin. Ouais. Il y en a plein aujourd'hui des tangos en fait.
Ouais. Il y a, selon qu'on les voit, bon, il y a une longue tradition en Europe surtout, mais qui est très maintenant diffusée aussi aux États-Unis, en Russie, des danses, ce qu'on appelle standard, en fait, des danses de compétition. Le tango fait partie des 5 danses de compétition standard. Et c'est un tango qui est très loin dans l'esprit du tango argentin. Et très, 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 très loin. Après, le tango argentin a quand même différentes formes. Donc, il y a les tangos populaires, les tangos de scène et les tangos de compétition. Mais ça, c'est comme l'univers des tangos standard, c'est très loin. Et tu sais, qu'est-ce qui est peut-être plus proche? C'est que les gens disent ici, oui, je danse. Des fois, il y a des gens qui disent, je danse le vrai tango. Ils parlent d'un tango lié à la tradition des balles populaires. Mmh. Je veux dire, 14 juillet, au Vals Musette. Alors, ces tangos-là, qui étaient peut-être plus simples que les tangos argentins, mais tout à fait social et improvisé, il y a un esprit un peu plus proche. Ouais. Et après, il y a les tangos liscio en Italie, il y a les tangos finlandais. Oui, il y a plusieurs tangos après les tangos argentins.
Alors, moi, j'avais cette idée reçue là du tango traditionnel. Il y a d'autres choses comme ça que des gens peut-être viennent en cours en ayant des idées sur le tango et qui se trompent complètement.
Il y a pas mal de clichés qu'on porte tous et on rigole pas mal en cours. Et sur les postures, notamment, les gens maintenant ils ont un peu d'informations et ils savent que les tangos c'est une danse de couple, une danse improvisée et une danse, on va dire, intimiste. Mais la posture, des fois, surtout pour les gens qui ont fait un peu de danse de salon, elle est un peu tirée, un peu rigide, un peu avec les deux dos en arrière, un peu dur. Et le tango argentin, il est fait en souplesse. Et l'autre chose, c'est que quand les gens vont voir des spectacles, ce n'est pas le cas maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles, mais quand les gens arrivent à une initiation, après avoir vu un spectacle, ils souhaitent faire tout de suite des jeux des jambes. Et le tango, il est plus proche d'une marche que des jeux des jambes. Les deux cohabitent dans le tango, mais c'est la notion de marcher, de s'arrêter, comme une mise en tension dans la marche, s'écouter, découvrir ça, plus que c'est ce qu'on appelle les ganchos, non, les crochets. Et les gens arrivent en faisant bouger les jambes avec envie.
Ils ont très envie. C'est ce qui est peut-être le plus impressionnant dans les mouvements.
Exact. Et les casquets, tu vois ici. Ils disent, quand est-ce qu'on fait les casquets? Les casquets n'existaient pas en tango.
C'est quoi les casquets?
On renverse la partenaire.
D'accord. Les cours de danse, donc vous avez commencé très tôt à donner des cours. Comment on apprend le tango? Est-ce que c'est quoi le processus pour apprendre
ça
le tango?
Ça t'intéresse, je vois. Au début, on montre aux gens qu'en fait, en connaissant très très peu, deux personnes arrivent à bouger ensemble. Donc ça, la première chose qu'on découvre, c'est les minimums de ces possibilités de bouger à deux, de comment on communique, comment on décore. Sans parler, arrive à communiquer sur des intentions et des directions. Et après, on fait appel un peu à un autre élément, que c'est la mémoire, et on apprend des pas. Ouais. Et un peu, on s'est dit, bon, une combinaison qui a 4-5 pas, 6 pas, 6. Et l'important, c'est qu'on puisse concevoir que les pas, on peut les couper, parce que c'est quand même une danse qui s'appuie sur constamment une prise de décision, en fait, d'ensemble, selon l'espace qu'on a, la musique, ce que la musique propose. La musique n'est pas souple et évidente, c'est une musique qui a beaucoup de, on dit comme des accidents.
Ouais.
Il s'arrête, il continue. Et donc, on suit la musique, on cherche à improviser à deux, et on, tous les, je sais pas, quand on a beaucoup plus d'expérience, c'est dans les pressions, mais on dit, bon, là j'avance, donc là je retiens, là je sors par ici, là je sors par là. Et ce qui a les plus performances, c'est comment on communique. Au début, pour ne pas poser cette question tôt et que ça donne un peu peur, on fait comme des séquences. Ouais. Comme si tu étudiais une langue, tu vois, tu apprends à dire.
On enchaîne 5-6 pas.
Tu vois, les phrases qu'on dit, je m'appelle, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans.
C'est comme apprendre à parler, alors.
C'est comme apprendre à parler. C'est apprendre à parler, oui.
Et il y a peut-être aussi un lien avec la musique. Vous dites que c'est une musique d'improvisation, mais avant de pouvoir improviser sur un instrument, il faut connaître son solfège, ses gammes, etc.
Tout à fait.
Il y a ce lien aussi de connaître les pas.
Au début, oui. Au début, on apprend à faire des phrases plutôt longues, tu vois, les 8 pas, 10, 6. Et après, on, petit à petit, on commence à les couper.
Ouais.
Pour pouvoir les assembler autrement. Et aussi, on apprivoise la musique qui n'est pas évidente, parce que c'est une musique rythmique. Quand on l'écoute pour la première fois, on a une espèce de flou, de temps fort, temps faible, qu'on dirait que c'est toujours la même chose. Et dès qu'on rentre dedans avec un peu d'écoute, on s'aperçoit que c'est un univers incroyable. Et, mais pas évident, parce qu'il est fait, un peu comme on parle, c'est très comme on parle les Argentins.
C'est très vivant. L'association avec laquelle vous donnez ces cours s'appelle le Tango Social Club.
Tango Social Club.
Il y a cette dimension sociale, du coup.
Il y a plus social que club. et c'était un peu une. Parce que je travaille à Lyon pour une autre association et on a une compagnie. Mais le groupe ici à Villefranche, c'est un groupe extraordinaire qui s'est créé. Bon, il y a une petite jolie communauté de tangueros déjà. Et quand je voyais leur dynamique propre, je me disais qu'il fallait aussi se doter de quelque chose qui puisse parler de ce qui s'est passé ici. Donc avec ça, on souhaite faire aussi de développer un tango qui est, on va dire, à importer social. Mm-hmm. Avec une dimension sociale, parce que la compagnie, elle est plus professionnelle, non ? Ma compagnie s'appelle Union Tanguera, c'est plus professionnel.
D'accord. Quand on apprend à danser le tango, j'imagine qu'on a envie de montrer après ce qu'on a appris autour de Villefranche, dans le Beaujolais. Il y a l'occasion de danser le tango. Il y a des rendez-vous comme ça qui.
En fait, quand on danse le tango, on l'apprend pour aller danser.
Bien sûr.
Non, donc c'est pas un but sportif. On le fait pas juste pour être en forme. Même si ça permet de faire des kilomètres. Mais le but, c'est rencontrer les autres, les danser, passer un bon moment, etc. Donc, effectivement, il y a des opportunités. Nous, on essaye de créer des opportunités ici. On organise des pratiques une fois par mois pour que les gens puissent venir pratiquer. On fait des bons apéros dansants. Après, les plus proches, je pense, pour les gens d'ici, c'est soit à Lyon, soit à Mâcon. À Mâcon, il y a aussi une autre association assez grande qui organise des choses. Et il y a des choses qui vont se développer sans doute. Après, il y a des choses un peu plus spontanées. Il y a des danseurs qui habitent ici dans la région qui organisent pendant l'été des milongas. Donc oui, il y a pas mal de réalités. De toute façon, les gens se déplacent. Après, il y a eu un festival ici à Villefranche qui organisait une autre structure qui est aussi à Lyon, ils ont fait 4-5 éditions. C'était un rendez-vous annuel qui était dans un très beau lieu, à Villefranche, au centre-ville. Et maintenant, je ne sais pas s'ils vont le refaire, le festival.
Il faut attendre que ça revienne, mais ça revient petit à petit.
Donc, un appel, c'est que si on cherche un endroit pour faire des bals réguliers ici.
À Villefranche.
Ah oui.
Si quelqu'un nous entend, pour organiser ça. Jeudi soir, ce jeudi 16 septembre à 19h, on peut venir découvrir ce que c'est qu'un cours de tango.
Ouais.
Si on se pose des questions, s'il y a encore des gens qui hésitent, qui se disent « Oui, mais le tango, c'est pas forcément pour moi. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ?»
Que c'est facile au début. Après, c'est pas une danse évidente parce qu'on a peu de références. On sent que si on se mettait à danser peut-être la salsa, on serait plus proche, le rock. Le tango nécessite un peu de comprendre d'autres choses, mais c'est facile. Au début, c'est facile.
Ouais.
Et que c'est n'importe qui, n'importe quel âge, seul, accompagné.
On peut venir seul pour prendre les cours de tango.
Et après, vous allez, si vous venez jeudi, au jeudi d'après, parce qu'on va faire deux initiations, il y aura après les avancées des groupes qui vont venir plus tard pour pratiquer, pour s'entraîner, pour démarrer leur cours aussi.
Donc, et ensuite, c'est toute l'année, tous les jeudis soirs,
ces cours. Sauf vacances.
Les vacances scolaires.
Ouais.
Et à 19h, c'est
les débutants.
Les débutants.
Dans les flyers, on s'est mis à l'inverse, mais c'est à 19h, c'est les plus jeunes.
Ouais.
Et après les intermédiaires
plus avancés. Plus on va dans la soirée, plus c'est ceux qui maîtrisent le tango. Merci beaucoup Esteban.
Non, merci à toi.
D'être venu nous en parler. On reste dans cet univers du tango avec le...
Très bon choix de musique, très joli.
Merci. On écoute le Gotan Project avec le titre Epoca. Au plaisir.
Merci beaucoup.
Desapareció, en mí aparecerá. creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Divino. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco.
Project qui mélange avec brio musique électronique et musique latine. On vient d'entendre le titre Epoca.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Et oui, avec nous en studio. Enfin, en studio par liaison, c'est le coach. Bonjour, coach.
Par liaison satellite internationale,
c'est ça. Bien
salut,
sûr.
Comment ça va?
Ça va bien et vous?
Ça va bien, je te remercie. Alors.
Bon, alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, coach?
Eh bien, je vais parler d'un fait d'actualité de la politique locale parce que hier se tenait une élection de la plus haute importance à Villefranche. La presse n'en a pas parlé malgré le fait que des irrégularités graves ont eu lieu pendant le scrutin.
Moi, j'en ai pas entendu parler non plus. Vous parlez de quelle élection, coach ?
Je parle bien sûr de l'élection des délégués d'une classe de CM1, d'une école de Villefranche, dont je préfère préserver l'anonymat. L'enjeu était important cette année, parce que les délégués de CM1 et de CM2 vont participer à un week-end citoyen avec des délégués qui viennent d'un peu partout en France. De quoi faire rêver les candidates et les candidats de cette élection. Et comme pour les élections des grands, eh bien cette élection des délégués de CM1 promet des avantages intéressants, puisqu'il y a un voyage gratuit à la clé. Et le problème, c'est qu'avec les élections, dès qu'il y a des avantages à tirer d'une fonction, bah, on peut craindre que l'envie amène des candidates et des candidats à tout faire pour gagner et même utiliser des moyens contraires à la loi. Eh bien, figure-toi, gamin, que dans cette élection des délégués de CM1, eh bien, ça n'a pas manqué. Un des candidats au poste de délégué, le nommé Théo, a commis une fraude électorale.
On a même le nom. Mais alors, d'où est-ce que vous tenez toutes ces informations? Qui vous a livré le scoop, coach?
Alors, je tiens cette information d'un élève lanceur d'alerte qui a participé au scrutin et qui était outré de l'injustice qui s'est jouée dans cette classe de CM1 caladoise. Cet élève m'a même rapporté une preuve dont je publierai la photo sur le site de Radio Calade, parce que Théo a distribué à chaque élève de la classe, au moment de présenter sa candidature au poste de délégué, un paquet de bonbons Haribo sur lequel était agrafé un carton où l'on pouvait lire « Votez Théo, le délégué qu'il vous faut ». Alors, pas un carton fait à la main par un enfant, hein. Non, un truc bien chagadé, tu vois. Il doit avoir une graphiste dans son équipe de campagne, le Théo. Ça ressemblait un peu aux affiches que font les Américains pour leurs élections, tu vois, avec du rouge, du bleu, tout ça. Hein. Alors, moi, quand je pense que les autres gamins candidats, ils avaient fait leurs affiches à la main avec des feutres, franchement, ils faisaient pas le poids avec Théo et son paquet de bonbec agrafé avec son petit carton.
Ah, c'est pas juste, c'est vrai.
Vous verrez, quand vous verrez le truc sur Internet, bah, vous verrez que le Théo, il avait une équipe derrière lui. Il avait du budget pour acheter 30 petits sachets de bonbons et pour imprimer ses 30 petits cartons. Hein, parce que c'est impossible qu'il ait fait tout ça tout seul, le môme. Hein. C'est ça, c'est pas possible. Hein.
Ah oui.
Alors, avec des moyens pareils, pas de suspense, hein, gamin. Théo a été élu délégué de sa classe et il va partir en voyage. Hein.
Les élèves se sont fait acheter.
J'ai tout compris, gamin. J'ai tout compris. Hein. Pas dit que les parents du gamin ne soient pas originaires des Bouches-du-Rhône ou des Alpes-Maritimes, tu vois, avec une conception pareille de la démocratie. Alors, certes. Hein, ce n'est qu'une élection de délégués de CM1.
Moi, je ne sais pas le dire.
Alors, voilà, tu vas me dire. Non, mais je te connais, gamin. Tu vas me dire pourquoi vous en faites tout un plat, coach. C'est ça.
Oui, bah, c'est un peu ce que je pensais, mais bon.
Bon, vous voyez, hein, c'est ça, je vois le mal partout et tout ça. C'est ce que je suis sûr. Eh bien, je vais te dire pourquoi, puisque tu me le demandes. C'est parce qu'une élection de délégués est un enseignement et une mise en pratique du principe de l'élection démocratique et que cet enseignement. Ça s'inscrit dans l'EMC. C'est quoi l'EMC?
Bah, oui.
C'est l'enseignement moral et civique en jargon scolaire.
Très bien.
Hein, qui est à l'école primaire. Est-ce que les gamins ont appris hier dans cette classe de CM1? C'est non pas la morale civique, mais le clientélisme à la Serge Dassault. C'est l'ancien maire de Corbeil-Essonne qui distribuait. Alors lui, il n'y allait pas avec des bons becs. Haribo, mais il y allait à coups de billets, le Serge.
Ah oui, carrément, ok.
Alors, à un moment, il y a un gamin de la classe qui s'est indigné de cette élection et de ses façons de faire auprès de l'enseignante. Il lui a dit, c'est pas juste parce que les élèves, ils ont voté pour Théo parce qu'il nous a donné des bonbons. Alors, ce gamin avec une bonne conscience qui s'appelle Amaury, je tiens à le saluer parce que Amaury, c'est toujours bien de dénoncer les injustices, donc... Tiens bon, mon gars, c'est toi qui avais raison.
Très bien.
Et la maîtresse, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a balayé cette indignation en disant que certainement, des élèves aussi n'ont pas voté pour Théo pour les mêmes raisons. Hein, bonjour, bonsoir, circulez, il n'y a rien à voir. Deuxième leçon du jour, la culture de l'impunité dans le milieu politique. Ça m'a vraiment fait penser, tu sais, quand il y a des élections puis qu'il y a des trucs pas bien réglo qui se passent, quand les représentants, ceux qui doivent valider... ceux qui sont saisis parfois, ben ils valident ces irrégularités. Hein. Alors, tu vas me dire aussi, hein, je te connais, hein, au moins les gamins, ils apprennent comment ça se passe vraiment dans la vraie vie électorale.
C'est pas faux, c'est une bonne leçon, mine de rien.
Ils n'apprennent pas comment ça devrait se passer. Tu vois, les gamins, ils n'ont pas le temps de se construire des idéaux et des illusions, mais au moins, bref, ils ont bouffé des bons becs. Hein. En une matinée, les bambins, ils ont appris le concept de clientélisme et le concept d'impunité. Ça, c'est de la pédagogie qui fonctionne et utile. Il doit être content, Jean-Michel Mich, le ministre de l'Éducation nationale. Hein.
Oui, ça correspond au modèle, oui.
Voilà. Enfin, tu vois, gamin, ça me laisse quand même un arrière-goût amer, cette histoire. Parce que ce qu'a fait Théo, avec la bénédiction et l'aide active de ses parents, bah, c'est interdit par la loi. Un syndicat avait eu la même idée que les parents de Théo en 2019 pour gagner des élections professionnelles en distribuant des cartes cadeaux à 3 jours avant l'élection et en disant aux gens à qui donner les cartes cadeaux, tu n'oublieras pas qui c'est qui t'a donné ta carte cadeau dans 3 jours quand il va falloir voter. Bah, sauf que là, les autres syndicats ont dit aussi que ce n'était pas juste, mais eux, ils ne se sont pas plaints à la maîtresse, ils se sont plaints à la justice. Et la justice, elle a fait annuler cette élection en argumentant que, je cite, « la distribution aux électeurs par des candidats de cadeaux substantiels est en elle-même contraire aux principes généraux du droit électoral en ce qu'elle peut être interprétée comme de la rémunération de vote. » Ce qui veut dire, en langage pécor comme nous on le pratique, ils ont acheté les voix, les salauds. Alors moi ça me rend chafouin, parce que ce gamin, Théo, il n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Ses parents n'ont rien trouvé à redire, de lui transmettre que tous les moyens sont bons pour arriver à son but, même s'il faut tricher et utiliser des moyens que l'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors Théo, qu'est-ce qu'il va intégrer ? Eh bien, dans son rapport à la loi et dans son rapport au monde et dans son rapport aux autres, il va intégrer que tous les moyens sont bons pour gagner et dominer les autres, et même contourner les règles communes. Je suis déçu car le sentiment d'injustice que certains enfants ont légitimement ressenti et exprimé. D'ailleurs, mon lanceur d'alerte m'a dit que ce matin, à l'ouverture de la classe, certains ont pu, au moment où la maîtresse demande quelle est la météo des émotions, exprimer leur colère devant le scrutin d'hier et devant le fait que Théo ait gagné une élection en donnant des bonbons qu'il a acheté une élection. Les gamins, ce matin, ils n'avaient pas encore digéré le truc pour certains. Eh bien, ces gamins et ces gamines qui ont intégré ce qui est juste et équitable et ce qui ne l'est pas, eh bien, ce n'est pas valorisé comme valeur essentielle pour eux. Ce n'est pas ce qu'ils ont retenu de cette histoire. Ils ont retenu que quand on triche et quand on achète une élection, ben, on gagne. Et ça, c'est ce qu'on appelle une violence symbolique à laquelle il faut être vigilant dans un lieu d'apprentissage comme l'école. Cette histoire m'a fait penser à un ami de Radio Calade qui est au Cameroun et qu'on a déjà entendu plusieurs fois à l'antenne. Il s'appelle Ernesto Yéné. Et il nous avait expliqué déjà le système du clientélisme de son pays. Et il y a un nom pour ça. Au Cameroun, on appelle ça les sardinards, en référence aux sandwichs constitués de pain garni aux sardines à l'huile qui sont distribués aux populations par le parti en pouvoir lors des campagnes électorales et lors des tournées pré-élections pour s'assurer du vote des gens. Alors au Cameroun, on appelle ça pas du pain garni, on appelle ça du pain chargé aux sardines. Et ceux qui mangent ce pain-là, avec ces sardines-là, on les appelle les sardinards parce que quelque part, ils cautionnent ce système.
Ils se font acheter.
Voilà. Alors l'année prochaine, pour les élections de délégués de CM2, c'est tournée de pain chargé à la sardine pour tout le monde. Et là, on va voir qui c'est qui va gagner.
Aïe, 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 Théo, tiens-toi bien. Et ben merci beaucoup, coach, pour cette leçon que vous nous avez transférée, cette leçon vécue en CM2. Merci beaucoup.
Eh bien, gamin, j'espère que cette petite chronique arrivera aux oreilles de la maîtresse et qu'elle pourra faire amende honorable auprès des élèves en prenant conscience de ce qui s'est passé et ce qui s'est joué hier dans sa classe.
En tout cas, vous avez des bons indices. Vous êtes bien informé.
L'important, c'est les sources, gamin, toujours les sources.
C'est essentiel. Bon, merci beaucoup, très bonne journée. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ensemble sur Calade.
On reste dans le thème des élections. Tété nous chante « Votez pour moi ».
L'idée m'est venue ce matin en me rasant. Je me suis dit « Tiens, quelque chose de plus grand que nous s'impose à moi ». L'appel d'une noble mission à la mesure de ma vision. Alternative de premier plan, moi président. Votez pour moi, le programme j'en ai pas vraiment. Votez pour moi, mais j'aviserai en cheminant. heureux qui suivra mon refrain. Je ne reculerai devant rien. Pour moi, votez pour moi. De ville en ville, conjure en nombre, j'irai tranquille au plus grand nombre, tel le pèlerin délivré, mon message serein. Le monde dira dans mon sillage, ce gars sait soigner son ouvrage, pour fustiger des trucs au pif, je suis créatif. Votez pour moi, j'accolerai le feu qui brûle. Votez pour moi, à ces pauvres gens qu'on accule. J'incriminerai l'eau qui mouille, crierai qu'on nous prend pour des nouilles. Pour moi, votez pour moi. Si ça vous dit, si ça vous dit, si ça vous dit. Et si la veille du scrutin, on me prend la main dans le sac, je n'irai tout regard mutin du tac au tac. Post-vérité, c'est mon segment, prémisse d'un printemps citoyen. Si je te dis qu'il est encore temps, c'est qu'il y a moyen. Votez pour moi, j'imposerai à qui veut l'entendre. 49-3, en fait il n'y a rien à comprendre. Je restaurerai souveraine les seules valeurs qui tiennent les miennes. Pour moi, votez pour moi. Pour moi, votez pour moi. Pour moi, votez pour moi. Si ça vous dit, si ça vous dit, si ça vous dit, si ça vous dit.
Pas de clientélisme avec Tété, on vient d'entendre le titre « Votez pour moi ».
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et tout de suite, eh ben, on retrouve Bertrand Lamure pour nous parler littérature. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon alors, on se retrouve pour l'épisode 2 de la rentrée littéraire.
Mais bien, très bien, tu as bien suivi. Et effectivement, parce que la rentrée littéraire, j'allais dire, bat son plein, donc c'est ça qui est chouette. La semaine dernière, je parlais de 521 romans qui sortent entre mi-août jusqu'à fin octobre. Donc c'est à la fois... très très exaltant, passionnant de lire tous ces livres. Bon, ça fait un peu irréel de se dire on va lire 500 romans, bien évidemment que non. Et puis c'est très bien, parce qu'il faut aussi lire des romans qui nous plaisent, qui ont un sens, quoi. Lire pour lire n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc la semaine dernière, j'avais évoqué trois premiers romans qui avaient été vraiment des coups de cœur de lecture dans l'été, puisque nous avons la chance de pouvoir lire avant, mais aussi pendant, hein, puisque voilà, on va continuer à lire bien évidemment tout cet automne. Alors là, on va commencer par Natacha Appana. Alors Natacha Appana est alors, à la base une auteure qui est délicieuse. Elle est extrêmement gentille, extrêmement sensible quand on la rencontre. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Alors on la connaît, elle est d'origine mauricienne. On la connaît beaucoup pour son livre Tropique de la violence, qui évoquait cette société mauricienne des Comores, minée par la violence. Elle avait fait dernièrement un livre qui était Le ciel par-dessus le toit, qui était aussi très beau, autour d'une jeune fille. Et là, elle a un titre qui s'appelle Rien ne t'appartient. Alors, ce qui caractérise quand même l'œuvre de Natacha Appana, c'est cette émotion, c'est cette finesse dans les personnages. Quand on lit un livre de Natacha Appana, on s'empare d'un personnage, on a ce personnage qui est là avec nous et qui va nous suivre longtemps. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans les livres, quand 6 mois après, on pense encore à ce personnage qui nous a quelque part un peu hanté.
Qu'est-ce qui devient ?
qu'est-ce qui devient, et au fait, et voilà. Et donc ça, c'est très souvent, hein, d'ailleurs, quand on finit un livre, et qu'on dit, mais c'est fini, mec, du coup, comment ça va se passer? Je vais plus jamais le revoir, je vais plus ça. Ça peut être dramatique.
Ouais.
Alors là, c'est l'histoire d'une femme qu'on découvre en train de sombrer. elle est en train de sombrer, son mari vient de décéder, on sent qu'elle a totalement perdu pied. Alors on se rend compte que cette femme vient certainement d'Asie, on ne sait pas trop le pays, on s'interrogeait, Thaïlande, Vietnam. Et dans ce moment où elle sombre, où elle n'arrive pas tout simplement, hein, concrètement elle n'arrive pas à se relever, elle est dans son appartement et elle n'arrive plus à bouger. Et on revient sur cette enfance, une enfance qui a d'abord été heureuse et puis ses parents sont décédés. Et là ça va être un peu une spirale de presque de malheur avant que elle rencontre son mari qui en fait était venu aider des populations après un tsunami dont elle faisait partie. Elle s'en est réchappée et ils vont repartir ensemble en France. Mais ce qui est, même si on peut presque raconter l'histoire, parce que c'est vraiment ce portrait de femme qui n'y arrive plus. Et on suit quelque part tout son parcours. C'est avant tout une sensibilité, une très 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 belle sensibilité. Pour donc « Rien ne t'appartient » de Natacha Appanah chez Gallimard. Alors on part beaucoup plus loin, enfin pour l'instant pas trop loin, le troisième oui, qui est « Les Océans ». Alors c'est un livre d'un Italien qui s'appelle Claudio Morandini. C'est un auteur un peu décalé en Italie. Et le livre l'est tout autant. C'est aux éditions Anarchassis. Alors Les Océans, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est ethnomusicienne et qui veut retourner dans un village où elle avait passé ses étés d'enfance avec ses parents. Et elle entendait toujours des bruits. Et pour elle, ces bruits, ça venait des bergers qui étaient dans les alpages et qui communiquaient entre eux et qui avaient quelque part mis en place une sorte de code, une sorte de vocabulaire pour se comprendre. Et alors, elle va essayer de rentrer en contact avec eux depuis un village. Alors, c'est un village très particulier, on est donc en Italie, et c'est un village qui est extrêmement encaissé, au point qu'il n'y a presque pas de soleil. D'accord. Donc peut-être une ou deux heures de soleil par jour. Et ce village, où il y a une population, apparemment peut-être de plusieurs centaines de personnes, c'est quelque part un village de l'ombre. Et ces personnes qui habitent sont des personnes normales, mais on sent qu'elles ont développé des codes, des habitudes. Alors c'est de la réalité, on n'est pas très très loin d'un monde un peu à part. Et ce qui est assez fascinant, c'est ça, c'est cet entre-deux, entre ce monde d'un village, on peut imaginer des Alpes très encaissées, voilà, on a tous en tête des vallées très encaissées, où on se dit, voilà, mais là, ces gens qui habitent là, ils ne voient jamais le soleil. Et en même temps, voilà, c'est un monde un petit peu à part, dont elle va progressivement être happée. C'est un livre qui est justement, je trouve que c'est le bon terme, nous sommes happés par ce village, par cet univers. Un livre qui m'a scotché, Les Océans de Claudio Morandini. Très très bon livre.
Très
et
bien.
Puis pour finir, alors là on part loin. C'est un titre de Amitav Ghosh. Donc Amitav Ghosh est un très célèbre aujourd'hui auteur indien. Il a écrit beaucoup, beaucoup de choses, dont sa trilogie de l'Ibis. Et là, son livre s'appelle « La déesse et le marchand ». Alors, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est antiquaire, mais surtout spécialiste de livres anciens, indien, mais qui vit à New York, et qui un jour entend parler d'un conte, « La déesse et le marchand ». Et apparemment, ce conte s'appuierait sur des faits véridiques au 18e d'un marchand qui, effectivement, aurait presque sillonné la planète pour fuir la déesse au serpent, qui lui aurait jeté un sort. Et donc il va partir quelque part sur les traces de cette déesse, apparemment d'un temple qui aurait abrité cette déesse. Alors là, ce temple, c'est dans les Sundarbans, je ne sais pas si je prononce bien. C'est au fin fond de marais entre le Bangladesh et l'Inde. Et de cette épopée qui part sur ce temple, ça va le faire voyager dans plein d'endroits du monde, en particulier à Venise. C'est un roman d'aventure. C'est un roman qui est aussi vraiment empreint de nature, d'une vraie fibre écologique. Donc ça se lit voilà, comme un roman d'aventure, comme un périple à travers l'Inde et le monde, et en particulier Venise. C'est voilà, moi je ne l'ai pas lâché et je l'ai trouvé au final passionnant. Et quand on parle de ces personnages qu'on n'a pas envie de lâcher, justement, bah dedans il y a 3-4 personnages où de page en page, on espère qu'ils vont s'en sortir, on espère qu'ils vont arriver à se retrouver. Voilà, je ne dévoile pas toutes les énigmes, mais voilà, très distrayant, très bien écrit. Voilà. Donc pour cet épisode 2, et ben voilà, 3 livres qui nous emmènent vraiment dans 3 univers différents à travers le monde.
Très bien, merci beaucoup. On peut rappeler la référence du dernier, j'ai pas.
Alors la différence du dernier, c'est Amitav Ghosh, ouais. La déesse et le marchand, et c'est aux éditions Actes Sud.
Très bien.
Et voilà, et nous avions avant Les Oscillants de Claudio Morandini et Rien ne t'appartient de la très talentueuse Natacha Apana.
Merci beaucoup Bertrand. On se dit à la semaine prochaine.
Eh bien, tout à fait, bien évidemment.
Eh bien, très bonne semaine, à bientôt.
Bonne journée à tous. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Voilà, et c'est là-dessus que va se terminer l'émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez bien évidemment au podcast sur radio-calade.fr. La rediffusion habituelle, c'est demain matin à 10h. Et moi, je vous retrouve demain à 12h12 pour une nouvelle émission. D'ici là, vous retrouvez dans moins d'une minute à 13h vos pages d'information avec le journal de RFI et le journal local de Sylvie Rosier. À 14h, Georges Bouton sera là pour son émission Jazz, la 101e. À 15h, c'est l'Imaginoire. Et puis à 17h, c'est le retour de l'information et toute votre programmation d'émissions de soirée. À demain, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.